chemin de traverse.
Bonjour à tous, je suis Emma Brédoire et bienvenue dans Chemin de traverse. Dans cette émission, nous invitons associations, entreprises et particuliers qui proposent des alternatives en tout genre. Ils nous emmènent dans leur chemin de traverse pour aborder autrement le monde dans lequel nous vivons. Pour ce 8e épisode, nous nous sommes rendus au Salon à la ferme à Sarlande en Dordogne, l'autre salon de l'agriculture organisé par la Confédération Paysanne. Un chemin de traverse pour comprendre un peu mieux les enjeux de la souveraineté alimentaire qui nous guette. Bonne écoute. Bonjour, jeudi 22 février, je me suis rendue au Salon à la ferme, contre-pied du Salon de l'agriculture, organisé par la Confédération Paysanne. J'ai voulu essayer de comprendre les enjeux de la 4e édition de cet événement, où cette année, la thématique était la souveraineté alimentaire. Germinal Perrault, président du Conseil départemental.
Aujourd'hui, on nous impose un marché mondialisé où les agriculteurs de Dordogne sont en concurrence avec les agriculteurs du monde entier. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que ça provoque la disparition de l'agriculture paysanne dans les contrées rurales. Ça provoque la concentration des fermes qui s'agrandissent. Et ça provoque des modes de production industriels. Alors qu'on avait l'habitude, sur les exploitations agricoles de la Dordogne, d'avoir des modes d'exploitation à taille humaine. Et là, on va vers l'industrie. On va vers plus d'utilisation d'intrants, vers plus d'utilisation de pesticides, et on a industrialisé la production agricole. Moi, je pense que c'est une erreur mondiale, et qu'il faudra, le réchauffement climatique nous y impose, il faudra revenir à des modes de production plus près du terrain, qui recréeront de l'emploi dans les territoires ruraux.
François Soulard, je suis paysan d'abord et puis porte-parole de la Confédération Paysanne Dordogne.
Aujourd'hui, c'est la 4e édition de ce salon à la ferme où la thématique était la souveraineté alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
La souveraineté alimentaire, c'est un vaste sujet. Je pense que c'est compliqué maintenant de passer à côté de ce sujet, puisqu'on a bien vu que c'est ce que recherchent les citoyens, c'est ce qui permettra sûrement de sauver l'agriculture française, parce qu'on voit bien que c'est pas les exportations et les prix à l'exportation qui sauvent le revenu agricole. Donc je pense que ça, c'est la solution pour sauver les agriculteurs, pour bien nourrir les citoyens et essayer de sortir l'agriculture française de cette ornière.
Nathalie Verdier, maraîchère bio à Sarlande, dans l'est du département de la Dordogne, nous accueille aujourd'hui pour la 4e édition du Salon à la ferme.
Alors je m'appelle Nathalie, je suis maraîchère sur une petite ferme, produit 1 hectare de légumes diversifiés. Je suis installée depuis 2014. Je me suis installée de manière très classique avec les aides nationales à l'installation qui s'appelait à l'époque la DGA. Je suis passée voir la banque qui m'a prêté des sous. Et je me suis développée autour d'un petit marché que j'ai créé dans un village où il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, j'ai développé des paniers à la ferme, des ventes magasins bio et un petit restauration scolaire.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce moyen qui prend un peu le contre-pied du salon de l'agriculture, en quoi ce salon à la ferme est porteur et...
Mais en fait, le salon de l'agriculture tel qu'il se déroule à Paris, il montre quand même qu'un seul type d'agriculture, qui est le modèle dominant d'une agriculture agro-capitaux, sur grande surface, une agriculture d'exportation. Alors, comme ça, c'est pas vendeur de dire ça, c'est toujours maquillé derrière la gastronomie française, et nous savons produire en France, et nous avons du savoir-faire, et en plus, on est très bon techniquement, donc on a une super technologie pour produire. Mais globalement, c'est un modèle d'agriculture qu'on sait qui est fondé sur beaucoup de machinisme et beaucoup de produits chimiques. Et en fait, l'idée de faire le salon à la ferme, c'est de dire, attendez, l'agriculture, c'est pas que ça. Et l'agriculture, c'est pas aux portes de Versailles, c'est sur les fermes, quoi. Et en quoi, moi, mon modèle, il est... Je sais pas s'il est modèle, mais en tout cas, il est à contre-courant de l'agriculture qui est présentée au salon de l'agriculture à Paris. C'est une petite ferme très ancrée dans son territoire, qui s'adapte à son environnement et pas à l'inverse. et qui s'inscrit dans un tissu économique, social, par de la vente directe, du lien direct avec les consommateurs, une production voilà, de qualité. Enfin, moi, je travaille en bio et c'est ça qui la distingue du modèle dominant agricole.
François Soulard, porte-parole de la Confédération paysanne, exprime les revendications du syndicat au président du conseil départemental, Germinal Perrault.
Comme nous l'avons dit dans la presse, nous partageons la détresse du monde agricole soumis à une mutation existentielle profonde, mais nous ne partageons absolument pas les revendications ni les solutions prônées et obtenues par les autres syndicats. Il nous semble plus que jamais nécessaire au pouvoir public de donner des orientations claires en matière agricole, en contestant fermement le dogme du libre-échange pour dynamiser la production agricole française. C'est ce que vous avez impulsé. Évidemment, nous sommes bien conscients que ces orientations dépassent largement le cadre départemental pour lequel nous vous accueillons aujourd'hui. Pour rester dans une vision globale et des actions locales, nous attirons votre attention sur un projet porté par la Confédération paysanne nationale depuis plusieurs années, la sécurité sociale de l'alimentation. Ces propositions répondent à trois enjeux. Rémunérer le travail des paysans, assurer le respect du droit à une alimentation de qualité pour tous, sortir des fausses solutions de l'agro-industrie qui conduit à une véritable insécurité alimentaire. Concrètement, et sur le modèle du système de santé que nous connaissons, nous essayons de défendre, une carte vitale de l'alimentation donne accès à des produits conventionnés pour un montant de 150 euros par mois et par personne. Le conventionnement repose sur des caisses gérées démocratiquement au niveau local et articulées avec une instance nationale. Dans le prolongement de la ligne politique engagée avec les collèges, la sécurité sociale de l'alimentation permettrait de renforcer la production agricole, transformée et redistribuée dans une logique de circuit court et si possible en bio. Vous l'aurez compris, la sécurité sociale de l'alimentation est un véritable levier pour le déploiement de l'agriculture paysanne dans le département. Une expérimentation est en cours de construction sur les territoires girondins depuis 2023, menée par le département, la ville de Bordeaux et des collectifs citoyens. Cette initiative de nos voisins mérite toute notre attention. C'est pourquoi nous vous proposons un rendez-vous autour de ce sujet dans les semaines à venir. Je conclurai cette prise de parole en rappelant que le monde agricole entre dans une période électorale puisque les élections chambres auront lieu en janvier 2025. Les vents sont mauvais. Nous affirmons haut et fort nos valeurs de gauche face à une déferlante populiste forte. Conscient des obligations de neutralité du Conseil départemental, nous aurons néanmoins besoin de réaffirmer, quand ce sera possible, nos collaborations et de convaincre les paysans de Dordogne, ensemble, que notre projet est visionnaire, équitable et sage.
La vraie question, c'est la question de l'Organisation mondiale du commerce. La vraie question, elle est là aujourd'hui, c'est-à-dire comment on conçoit le monde de demain. Les idées qui prévalent aujourd'hui, c'est les mêmes que celles que défendait l'économiste Ricardo au début du XIXe siècle, à savoir, c'est la théorie des avantages comparatifs, et Ricardo expliquait très bien déjà en 1830, ça fait un moment, que c'est pas la peine de s'embêter à produire du vin si un pays est capable de le faire mieux que vous, ou moins cher que vous, et tout à l'avenant. Et c'est cette théorie-là qui a fait que tout le monde est persuadé qu'en ouvrant les frontières à tout va et en libéralisant totalement le commerce mondial, l'humanité sera plus heureuse. Mais ils le défendent. Et ce sont ces idées-là qui se sont totalement imposées. Et ce sont ces idées-là, aujourd'hui, qui amènent l'agriculture française à la ruine.
Malgré tout, ce dernier exprime une solution envers et contre toutes ces pratiques agroalimentaires. La relocalisation. Changer nos pratiques de consommation et manger le local. Depuis 2015, le projet 100% bio avec les collèges de Dordogne a débuté.
Ah oui, la relocalisation. Et donc voilà, moi j'ai dit, pour relocaliser, et la meilleure façon de le prouver, c'est de le faire. Et donc on a décidé en 2015, de demander aux équipes des collèges de s'engager dans une démarche. S'engager dans la démarche, il n'y avait pas de seuil, on n'a jamais dit c'est 100%. Moi j'ai dit je veux qu'à la fin du premier mandat, tout le monde soit engagé. 100% bio, 100% local, 100% fait maison et 100% de saison. Parce que tout marche ensemble. Tout marche ensemble, si vous loupez un truc, ça ne marche pas. Bon bref, Donc les équipes l'ont fait, et petit à petit, on a essayé de convaincre les personnels de l'État qui sont dans les collèges, qui s'appellent le principal ou la principale, ceux-là, ce n'est pas moi qui les dirige, hein, c'est l'inspection d'académie, et les gestionnaires. Et les gestionnaires, personnage central. Très important, parce que c'est eux qui s'occupent des marchés, c'est eux qui achètent, c'est eux qui reçoivent les représentants de Transgourmet ou de Pomona ou des autres sociétés qui leur proposent des catalogues avec tout clé en main.
Valentin Delteil, ingénieur agronome et agent du département au service agriculture dans le projet 100% bio, nous explique ce que signifie cette transition alimentaire auprès des services de restauration dans les collèges.
Les cantines, c'est le plus gros du travail. Reformation, on va dire, des chefs de cuisine, des équipes de cuisine à cuisiner. C'est-à-dire que dans le projet, il y a plein de personnes, en tout cas dans le département qui travaille dessus. Il y a nutritionnistes pour revoir les plans alimentaires. Il y a deux chefs formateurs qui sont employés au département, qui sont à temps plein sur la formation des chefs de cantine, qui va consister à en fait rentrer dans les cantines, faire des sortes d'audits un petit peu en disant, ben là, des fois, tu rentres dans les cantines, il n'y a plus un couteau pour cuisiner. Même pas un couteau, il n'y a que des petits fours pour réchauffer. Donc, ils font un audit de matériel en disant, ben là, il va nous falloir des couteaux, il va nous falloir des fours, il va nous falloir etc. Il faut qu'on repense à la logistique de la cuisine pour que ça soit beaucoup plus pratique de cuisiner, les chambres froides, les chambres de découpe, etc. Cette première partie-là pour les formateurs. Et ensuite, une partie vraiment d'entretien avec les équipes de cuisine, du chef, etc. Voire une partie RH. De recrutement, de mutation des gens, etc. Et derrière, après, ça enclenche toute la partie de, ben, on appelle ça des immersions, les moments de formation des chefs. Ça peut aller de 1 mois à 6 mois avec du SAV, des choses comme ça. Et ça dépend vraiment de la dynamique dans le collège. Et là, c'est réapprendre à cuisiner, en fait, enfin, ou relancer une dynamique de cuisine. Souvent, t'as pas besoin des chefs, savent cuisiner. Il faut relancer la dynamique de création, de recettes, de voilà.
Nathalie Verdier et d'autres sympathisants nous parlent d'un autre point essentiel pour la Confédération paysanne, l'utilisation de produits naturels.
En fait, c'était la consoude qui asséchait le truc, mais je pense qu'en fait, la consoude, elle renforce la défense immunitaire de la plante, et la plante, elle nécrose les zones qui sont attaquées. Donc j'ai du mildiou, c'est ça la différence de raisonnement avec des purins, c'est que quand on utilise un produit, la logique du produit chimique de synthèse, c'est d'éradiquer un truc.
Comme le
médicament. Que ce soit une bestiole, comme le médicament.
Pareil.
Et en fait, vis avec, je vis avec, mais en le régulant.
La consoude, elle était bien appliquée par nos grands-mères. Mmh. Quand on avait les plaies.
Mmh. Elle est cicatrisante. Donc moi, en gros, je me fais du purin de bardane. La bardane, c'est vraiment le truc qu'on trouve là, partout. Là.
Qui accroche, là.
Voilà, le choudan, là, ce qu'on retrouve dans les crins et les poils de chien. Je fais du jus de consoude.
Moi, j'en ai dit.
Et si je trouve ou de la prêle, ou de l'ortie, ou de... Voilà, je fais un autre purin. Et puis, je fais ce mélange et je traite patates et tomates avec ça.
C'est des moyens alternatifs aux pesticides.
Oui.
C'est quoi le nom général?
Produits naturels peu préoccupants. PNPP, ça s'appelle.
Okay.
Ça, c'est la dénomination administrative légale, je sais pas comment on dit.
Depuis tout le temps, tu traites avec le PNPP?
Oui.
D'accord.
Oui.
Enfin, Jean-François Lipout, président de l'association LASPRO PNPP, nous fait comprendre que d'autres combats sont à venir.
Moi, je suis Jean-François Lipout, je suis président de l'association ASPRO PNPP. C'est pour la reconnaissance des alternatives naturelles aux pesticides, parce qu'à un moment donné, il y a eu en 2006, et puis ça dure encore d'ailleurs, l'interdit du type purin d'ortie, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, on s'est battu, et comme la Dordogne a quand même été en pointe là-dessus, et voilà.
Aujourd'hui, on voit plein de revendications par rapport à l'utilisation de ces pesticides dans l'agriculture.
Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a un gros lobby derrière. En fait, ça va profiter juste aux vendeurs des pesticides. Mais moi, j'ai participé à des commissions, ce qu'on appelle biocontrôle au ministère, hein, en tant que président de l'ASOS. Bon, c'est pas mon ASOS, c'est une ASOS nationale, hein, quand même, qui est basée à Coursac. Et en fait, y compris les producteurs de pesticides, ils savent que c'est fini dans 15-20 ans. Eux, ils ont acté que c'était terminé, ça. Mais bon, il faut qu'ils vident les stocks, ils font beaucoup de marge. Et ils sont partis à investir le secteur, ce qu'ils appellent les biocontrôles. Et ils sont en train de privatiser tous nos savoirs. Voilà. Et notre but, nous, c'est de se battre pour qu'on intègre dans la loi. Alors là, on va essayer d'ouvrir une porte, c'est pas gagné. Et puis dans 20 ou 30 ans, ça arrivera peut-être ou pas du tout.
Le biocontrôle, c'est quoi?
Le biocontrôle, c'est des... Ben ça serait un remplacement aux pesticides de synthèse, mais c'est des formules moins toxiques encore qu'eux, et c'est surtout que c'est protégé par des brevets ou des trucs comme ça, et en fait on nous pique nos pratiques, et puis on va en faire du pognon. C'est ça l'idée.
Vos pratiques concrètement, c'est quoi?
Ben, nos pratiques, c'est de travailler, ce que disait Nathalie tout à l'heure, avec des purins, des alternatives, mais pas que. Hein. Ça peut être... Il y a plein de choses qui se pratiquent en alternative sur les fermes. Et des fois, c'est pas connu. Et en fait, leur idée, c'est de se piquer les trucs. Ils vont mettre, un adjuvant sur un purin d'ortie, puis ça sera protégé. Et ça sera admis dans le commerce. Et puis, par exemple, tout ce qui est de droit public, ça ne sera pas. Quoi, voilà.
Si ces entreprises, si j'ai bien compris, de phytosanitaires prennent en main le biocontrôle, c'est quoi le risque?
Le risque, c'est que c'est déjà le cas pour... Il y a 4 huiles essentielles qui sont interdites, qui sont déjà déposées comme des phytos. Hein, comme des pesticides, quoi. Et donc, à partir du moment où c'est déposé par une boîte, on n'a plus le droit de l'utiliser, on doit l'acheter. Et c'est la main, ça y est, ça a commencé, quoi. Donc, ces 4 huiles essentielles, c'est déjà la porte ouverte à s'y déposer brevet sur des trucs aussi cons qu'un purin d'ortie. Après, on ne pourra plus le faire, quoi. Voilà. Enfin, c'est un très mauvais exemple parce qu'il y a l'antériorité du purin d'ortie, donc on ne pourra jamais nous le piquer. Mais il y a des formules que des gens font chez eux, ça peut être de la tanisie, des trucs un peu moins connus. Et voilà. Et donc, ils vont nous piquer comme ils piquent les savoirs dans l'Amazonie ou autre.
Alors, plus que de le piquer, parce que s'ils le piquent, vu leur influence, ça sera répandu. Qu'est-ce que c'est le danger?
Le danger, c'est qu'on soit obligé de passer par la case commerce et on va payer très cher quelque chose qui coûte rien, quoi. Et puis nous, ce qu'on revendique au niveau paysan, c'est l'autonomie, quoi.
Chemin de traverse.
Pour réécouter le podcast, rendez-vous sur le site internet de RLP.